Livre des Nombres, chapitre 21. Et le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait le Midi, entendit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Et il combattit contre Israël et lui emmena des prisonniers. Et Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple en ma main, je détruirai entièrement ces villes. » Et l'Éternel entendit la voix d'Israël et lui livra les Cananéens. Et il les détruisit entièrement ainsi que leurs villes. Et on appela le nom de ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour faire le tour du pays d'Édom. Et le cœur du peuple se découragea en chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert ? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. » L'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et ils mordaient le peuple. Et de ceux d'Israël, il mourut un grand peuple. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. » Il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra. Et Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Et il arrivait que, lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Et les fils d'Israël partirent et campèrent à Oboth. Et ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijim Abarim, qui est dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. Et de là, ils partirent et campèrent dans la vallée de Zéred. Et de là, ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui est dans le désert, sortant des limites des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et l'Amoréen. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, « Vaeb en Sufa et les rivières de l'Arnon, et le cours des rivières qui tend vers l'habitation d'Ar et qui s'appuie sur la frontière de Moab. » Et de là, ils vinrent à Béer. C'est là le puits au sujet duquel l'Éternel dit à Moïse, « Assemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puits, chantez-lui, puits, que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple, avec le législateur, ont creusé avec leurs bâtons. » Et du désert, ils vinrent à Matana, et de Matana à Nakaliel, et de Nakaliel à Bamoth. Et de Bamoth à la vallée qui est dans les champs de Moab, au sommet du Pisga, qui se montre au-dessus de la surface du désert. Et Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, disant, « Je passerai par ton pays. Nous ne nous détournerons pas dans les champs, ni dans les vignes. Nous ne boirons pas de l'eau des puits. Nous marcherons par le chemin du roi, jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. » Mais Sihon ne permit pas à Israël de passer par ses limites. Et Sihon rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël au désert et vint à Jahat et combattit contre Israël. Et Israël le frappa par le tranchant de l'épée et prit possession de son pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok, jusqu'aux fils d'Ammon, car la frontière des fils d'Ammon était forte. Et Israël prit toutes ses villes, et Israël habita dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans tous les villages de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens, et il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, qui avait pris de sa main tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sihon soit bâtie et établie. Car un feu est sorti de Hesbon, une flamme de la cité de Sihon. Il a dévoré Ar de Moab, les seigneurs des hauts lieux de l'Arnon. Malheur à toi, Moab. Tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a livré ses fils qui avaient échappé et ses filles à la captivité à Sihon, roi des Amoréens. Nous avons tiré contre eux. Hesbon est péri jusqu'à Dibon. Nous avons dévasté jusqu'à Nophak, avec du feu jusqu'à Médéba. Et Israël habita dans le pays des Amoréens. Et Moïse envoya pour explorer Jazer, et ils prirent les villages de son ressort, et en dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Puis ils se tournèrent et montèrent par le chemin de Bazan. Et Og, le roi de Bazan, sortit à leur rencontre, lui et tout son peuple, à Édréhi pour livrer bataille. Et l'Éternel dit à Moïse, « Ne les crains pas, car je les livrerai en ta main, lui et tout son peuple et son pays. Et tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et ils le frappèrent, lui et ses fils, et tout son peuple, jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé. Et ils prirent possession de son pays.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, quelqu'un a bien dit au sujet de ce chapitre, autant était triste le chapitre 20e, tout empreint de manquement, de faiblesse, de mort, autant réjouissant et rafraîchissant ce chapitre 21e. Et c'est bien vrai. Je compte sur votre compréhension, chers frères et sœurs, que dans des sujets qui sont devant nous, qui sont si riches et si profonds, qu'il nous manque de temps pour entrer dans tous les détails, souvent. Mais je compte sur l'Esprit de Dieu aussi, qui fait son travail dans les cœurs et les consciences. Je réjouis déjà le fait que on peut passer quelques pensées qui peuvent peut-être aider les frères et sœurs, les jeunes parmi nous, pour les donner un appétit, pour poursuivre l'étude de ce livre et de ce chapitre. Voilà donc, devant nous, un chapitre bien connu, le serpent d'airain, qui ne connaît pas cette histoire déjà de l'école du dimanche. Comme l'habitude, vous me permettez de donner encore un petit canevas pour les étudiants parmi nous. Il y a une petite introduction. Et depuis les versets 1 à 3, nous avons l'opposition de l'ennemi et la victoire sur l'ennemi ou sur les ennemis. Et je cite déjà au moins 3 ou 4 ennemis. Nous avons aussi des ennemis de notre vie spirituelle. Et les ennemis mentionnés dans ce chapitre sont des Cananéens, des Amoréens. Il y a pour nous aussi des ennemis comme le monde, la chair, le diable. Et il me semble que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, par nature. Et nous avons donc l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous donne la puissance de vaincre sur ses ennemis, de ne pas se laisser lier ou empêcher par ses ennemis, mais par la puissance de Dieu, vaincre. Et ce chapitre nous montre que depuis ce chapitre 21e, Israël est donc vu comme vainqueur. Comme des vainqueurs. Et nous pouvons aussi être des vainqueurs, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas dans notre propre puissance, mais dans la puissance que le Seigneur donne par son esprit. Versets 4 à 9, le peuple découragé, et aussi là nous avons le serpent d'airain. Et là nous trouvons donc les obstacles. Presque comme ils marchent en arrière, ils sont découragés, ils murmurent encore une fois. Ce peuple est caractérisé par les murmures. Certainement, c'est une manifestation de la chair qui n'est pas content. Alors Dieu doit juger cet esprit de murmure. Il demande nous aussi de nous juger nous-mêmes. Et voilà, nous avons dans les versets 10 à 20, marcher en chantant. C'est la première fois que nous voyons ici que tout Israël chante. Déjà Moïse a chanté dans Exode 15 et Marie a chanté. Ici, Israël marche en chantant. Parce qu'il y a des rafraîchissements dans les puits, des eaux en abondance, des torrents, etc. Tout cela, c'est un type de l'Esprit Saint qui nous donne la capacité de chanter dans toutes les circonstances de la vie, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et finalement, versets 21 à 35, l'ennemi vaincu, c'est donc Sion et Og, deux rois vaincus par la puissance de l'Éternel, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous voyons que le Cananéen, la signification de son nom, ça veut dire trafiqueur. Trafiqueur. Trafiquer dans le monde, ça apporte de prospérité matérielle. Ce sont dans un type de matérialiste. De matérialiste. Et aujourd'hui, dans notre affluence, ça peut être un empêchement pour notre accroissement spirituel. Il faut donc veiller à cela que ces éléments ne nous empêchent pas. Un Amorien, ça veut dire la bavarder, bavarder. L'Amorien, la signification de son nom, bavarder. C'est aussi un danger, mes chers amis, parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, qu'on dit des choses qu'il ne faut pas dire. La prétention des gens. Un esprit de supériorité. Tout cela, ce sont des principes qui sont des manifestations de la chair, qu'il faut juger. Nous devons donc juger ses ennemis. Nous devons juger le Cananéen en nous, l'Amorien en nous. Il y a encore Bassan, ça veut dire leur honte. La chair, ce n'est pas selon Dieu. Il juge, il a jugé en Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Et encore Madian, qui veut dire contention. Là où il y a contention aujourd'hui, c'est la manifestation de la chair, mes chers amis. Reconnaissons donc tout cela, ces ennemis qui empêchent notre avancement spirituel, comme le peuple de Dieu, comme l'Assemblée, comme l'Église, l'épouse de Christ. Jugeons donc nous-mêmes et laisse le Seigneur juger les autres. Nous devons juger les fruits. Mais peut-être je l'avais déjà dit ici une fois, on peut juger facilement nos frères et nos sœurs. Voilà, il y a ici un frère, par exemple, qui sert le Seigneur, il est très actif, il a une voiture devant sa maison, et c'est très sale. Il fallait quand même qu'il le lave. Alors on lui dit, mais il n'y a quand même qu'à paresseux qui ne lave pas sa voiture. C'est un point de vue. Un autre point de vue, c'est qu'il est trop occupé pour le Seigneur, qu'il n'a pas le temps de le faire. Il y a donc des différentes manières de regarder une personne et de le juger. Ce n'est pas à nous de juger. C'est prendre l'autorité qui n'est pas à nous. Nous devons juger les fruits qui sont manifestés. Voilà donc à nous de vaincre tous ces ennemis et prendre possession. Israël prend possession, il efface ses ennemis de la terre, il détruise pour ainsi prendre ce terrain pour l'Éternel. Et c'est pour nous aussi, avancer comme ça. Il y a donc opposition. Il y avait cet rafraîchissement du rocher dans le chapitre 20e. On avait déjà vu que Édom s'opposait à l'avancement d'Israël. Ici, c'est le roi d'Arad. Arad, ça veut dire âne, ou âne sauvage, ou têtu. Vous voyez bien que c'est encore un autre caractère de la chair, obstination, têtu. C'est un ennemi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi, et nous le lisons, verset 1er, le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait le midi, entendit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim, et il combattit contre Israël, et lui amena des prisonniers. Il a pris prisonniers du peuple d'Israël. C'est possible pour un enfant de Dieu aussi d'être ainsi amené en prisonnier par l'ennemi. S'il laisse sa chair agir. Et alors, c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que le péché ne domine pas sur vous. Romains 6, verset 12. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Ne pas se laisser dominer par l'ennemi, ni par la chair, ni par le péché. Mais de réaliser que Christ est notre vie, cette plénitude de vie, et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et Israël, donc, réalisant leur faiblesse, ont voué à Dieu de ce qu'ils sont prêts à anéantir et détruire l'ennemi, et pour regagner leurs frères qui ont été conduits prisonniers. Et ils manifestent donc une détermination, ils sont déterminés de ne pas accepter ce défait, cette attaque de l'ennemi. Et priant, criant au Seigneur, l'Éternel est exaucé. Il les a donné la victoire sur Arad, et ils ont entièrement détruit Arad, tous les siens. Et cet endroit est donc appelé Orma, ce qui veut dire dans notre note aussi entière destruction, anathème. Donc ils ont remporté la victoire par la prière, par la dépendance sur l'Éternel et par sa puissance. Et c'est aussi pour nous aujourd'hui, le même chemin. Nous pouvons remporter la victoire sur le moi, sur la chair, sur le péché, sur l'ennemi, sur le monde, par la puissance de l'Esprit qui habite en nous. Mais il faut s'approprier de cela. Est-ce que tous nos chers jeunes frères et sœurs, dans votre vie, est-ce que vous êtes vainqueurs par la puissance du Seigneur Jésus? C'est une question. Dans ma jeunesse, et encore, j'ai été beaucoup béni par l'étude de l'Épître Romain, par exemple, les chapitres 6, 7 et 8, pour voir que la puissance n'est pas en nous, mais c'est dans le Seigneur Jésus, c'est dans son esprit. Remporter la victoire par la puissance du Seigneur Jésus. Mais une seule victoire, c'est remporter. Mais il faut toujours encore être vaillant, parce que le péché habite en nous, et cette chair aussi. Donc, si on ne vaille pas, on n'est pas alerte, l'ennemi vient d'un autre côté. S'il ne réussit pas par un ange de lumière, il vient comme un lion rugissant. Il a toutes sortes de manières d'infiltrer parmi les croyants, d'infiltrer dans notre vie, toutes sortes de triches, de mensonges. Et voilà aussi ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Il y avait quand même des découragements, verset 14. Et ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Et le cœur du peuple se décourage en chemin. Mais quand vous étudiez un petit peu la carte du Proche-Orient dans ce temps-là, vous voyez qu'ils ont fait déjà des 40 ans un cercle. Maintenant, finalement, ils vont partir pour le pays de Canaan. Et bien, encore un obstacle. Ils ne peuvent pas passer par le pays d'Édom. Il faut faire un tour, presque aller en arrière. Au lieu d'avancer, aller en arrière. Parce qu'ils ne peuvent pas aller par le chemin du roi, ils doivent donc aller par le chemin de la mer Rouge. Le verset 4. Et cela a beaucoup découragé le peuple d'Israël. Et ça arrive aussi pour l'enfant de Dieu, qu'il y a des découragements. Mais qu'est-ce que nous faisons dans notre découragement? Est-ce que nous commençons à murmurer, comme le peuple Israël le fait encore une fois? Eh bien, il manifeste une impatience. Et voilà leur fausse accusation encore une fois. Il faut faire une comparaison entre le chapitre 20e et 21e, les mêmes accusations presque. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Et alors, ils ont le dégoût, ils disent dans le verset 5, « Et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. » Ce n'est pas la première fois qu'ils ont méprisé cette nourriture que Dieu les avait donnée. Dans le chapitre 11, nous avons vu de ce livre des Nombres que aussi il n'y a rien, chapitre 11, verset 6, il n'y a rien si ce n'est cette manne devant nos yeux. Alors l'Éternel, Dieu, écoute cela. Et puisqu'on nous savons que la manne, c'est un type du Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'Éternel vient à la défense. Dieu vient à la défense de son Fils. Israël détestait la manne aussi. La chair ne se nourrit pas avec des traits du Sauveur. Non. Les traits du Sauveur, c'est la tendresse, la bonté, la compassion. La chair n'a pas de temps pour ça. Alors, tout de suite, dans le chapitre 11, Dieu donne une description, pour ainsi dire, dans la défense de l'honneur de son Fils, une description de la manne. Dieu revendique la gloire de son Fils. C'est semblable à un grain de coriandre. Coriandre, c'est marqué, imprimé avec beaucoup de détails. Ça nous montre les perfections diverses du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi comme de bdellium, ça décrit la valeur, parce que c'est une seule mention de bdellium dans la parole, c'est en Genèse chapitre 2, verset 12. Dieu veut nous parler de la valeur de son Fils, qu'il est précieux pour lui, pour son cœur. Est-ce qu'il est précieux aussi pour notre cœur? En Exode 16, quand la manne est tombée, le goût est comme le miel, dit l'écrivain. Son goût était comme ici, comme des gâteaux à l'huile. Pourquoi la différence? Si en Exode 16, nous voyons le côté de douceur du Seigneur Jésus-Christ, le goût du miel, ici nous voyons un autre côté spirituel de sa personne. Ce qu'il est lui-même dans sa divinité, lui il a mentionné. L'Esprit qui nous révèle la personne du Seigneur Jésus-Christ, toute sa beauté. Voilà donc, ils ont le dégoût de cette nourriture. Et encore ici, Dieu doit venir revendiquer l'honneur de son Fils. Et il y a la discipline qui suit. Pour nous, chers amis, est-ce que nous avons encore l'appétit pour la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est pour nous une nécessité de chaque jour, le jeûne et les mains jeûnes? Combien de temps est-ce que nous prenons chaque jour pour lire et méditer la parole? Alors, peut-être on est tellement occupé, on se lève le matin, c'est un peu tard, on dit bien plus tard, je lis. Mais on est tellement occupé toute la journée, on dit bien, quand je reviens à la maison, je lirai. Mais on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et c'est un cercle vicieux qui continue. Et on ne se nourrit pas comme il faut avec la parole de Dieu. C'est donc pas à s'étonner que nous sommes dans notre état d'aujourd'hui, par faiblesse. Si on se nourrissait plus avec la parole de Dieu vivante, on aurait donc une santé spirituelle pour faire face à l'attaque de l'ennemi. Nous sommes sous l'attaque aussi. Vivre par la parole de Dieu. Et pour nos jeunes, est-ce que la parole de Dieu a toute son autorité sur notre conduite? Parce que justement c'est là que vous êtes attaqué dans les cercles de ce monde, l'université, les études. Vous faites face à ceux qui sont des athées, des ennemis de Dieu et de l'Évangile. Mais de vivre par la Bible, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On fait un compromis. Ou est-ce que pour nous encore, la Bible est un étendard, elle est règle absolue pour notre conduite. Voilà donc, se nourrir de cette manne. Isabelle est dégoût. Et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable, ils disent. Et tout de suite, l'Éternel envoie ses serpents brûlants. Il y avait déjà des serpents, parce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, et le verset 15, qui t'a fait marcher dans le désert grand et terrible, désert de serpents brûlants et de scorpions, une terre aride, il n'y a point d'eau. Ah, Dieu savait très bien qu'il y avait des serpents. Mais jusqu'à maintenant, l'Éternel les a gardés, des morsures des serpents. Mais maintenant, ces serpents, ils les laissent mordre comme discipline. Brûlant, ou peut-être un autre traduction, c'est brillant. On dit que c'est une couleur jaune qui était très brillant, ou d'un autre sens, que leur morsure était brûlant dans le cœur, avec une inflammation et haute fièvre, sans eau, grande soif. Voilà le résultat de ces morsures. En effet, c'est donc un type du pécheur et le péché. Oui, ils disaient, n'est-ce pas, dans leur accusation, le verset 5, qu'ils meurent dans le désert. Montez hors d'Égypte pour mourir dans le désert. Dieu a exaucé dans un sens leur prière. Et il les fait mourir par les morsures des serpents. Il y avait de nombreux morts. Dieu, une fois, a miraculeusement donné des cailles à son peuple, mais maintenant il donne aussi miraculeusement des serpents brûlants. Il a ses moyens pour humilier l'homme obstiné. Il a ses moyens pour nous réduire à zéro, pour que nous sachions la plaie de notre propre cœur. Et voilà, cette discipline a eu son résultat. Parce que c'est pour la première fois que ce peuple dit, nous avons péché. Nous avons péché.